Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je commence ce matin par, évidemment, la situation à Gaza, alors que l'armée israélienne a mené une offensive hier, un assaut donc sur Rafah. On a d'ailleurs confirmé s'être emparé ce matin d'un lieu symbolique et crucial pour les Gazaouis. C'est la partie palestinienne de l'unique poste frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et ça s'ouvre d'ailleurs en plein cœur de la ville. Donc, c'est une offensive qui était annoncée depuis longtemps. Israël dit, nous avons neutralisé encore là des membres du Hamas. Ce n'est pas non plus le signe d'une attaque plus importante, d'une opération militaire d'envergure supérieure. Mais quand même, ça arrive au moment où le Hamas, et il faut faire attention parce que c'est un enjeu de négociation, le Hamas dit, nous acceptons un cessez-le-feu qui a été négocié notamment avec l'intervention de l'Égypte, le Qatar, mais la proposition acceptée par Israël a été modifiée. Israël dit, ben, ça fonctionne pas pour nous. Dans les faits, on n'a pas d'accord de cessez-le-feu. Est-ce que ça pourrait évoluer aujourd'hui? Peut-être. Mais il y a des témoignages ce matin, notamment dans le journal Le Monde, un médecin qui parle du déplacement des Gazaouis qui avaient été avertis. On leur disait de quitter, de se déplacer vers des endroits plus sécuritaires. Mais là, vous parlez d'une population qui s'est regroupée à Rafah et dans les environs. Donc, il y a une densité de réfugiés absolument incroyable. Et quand vous déplacez 100 000 personnes, ben, ça fait qu'il y a des quartiers qui débordent littéralement. Et toujours des enjeux aussi pour ce qui est du ravitaillement de la population, les Nations Unies qui martèlent jour après jour les difficultés d'approvisionner en nourriture, en médicaments, les Gazaouis. Alors encore ce matin, vous avez ce constat qui est fait et ce qui fait dire beaucoup d'humanitaires qui sont sur place que malheureusement, ça demeure difficile de nourrir et de soigner la population. J'ajoute également pour ce qui est de McGill, le campus est toujours occupé, les campements sont maintenus. Il y a eu discussion entre les autorités de l'université et des représentants des manifestants. L'objectif, c'est d'établir un calendrier pour permettre à McGill, si McGill accepte de le faire, de se désengager financièrement d'entreprises liées à Israël ou d'entreprises liées à ce qu'on appelle l'industrie militaire. McGill subit beaucoup de pression parce que il y a un lobby important à Montréal qui considère qu'on n'a pas à accepter ces revendications pour essayer de faire lever ce campement. Mais ça s'est passé comme ça dans beaucoup d'universités. Et même si on peut penser qu'à Columbia, ça a été réglé par la force, il y a d'autres universités où on a conclu des ententes. Donc, il n'y a pas de règlement en vue, premièrement. Deuxièmement, les policiers et surtout les agents de sécurité de McGill interceptent du matériel amené par des gens de l'extérieur qui ont comme objectif peut-être d'agrandir et d'augmenter le nombre de tentes, par exemple, d'agrandir ce campement. Il n'y a pas d'enjeu de nourriture, il n'y a pas d'enjeu de médicaments, disent les manifestants, il n'y a pas d'enjeu de salubrité non plus, mais c'est clair qu'il y a une pression qui est exercée pour éviter que ça prenne encore plus d'ampleur. Alors, ça continue et c'est un peu le message qui est répété depuis le début, c'est-à-dire de continuer tant et aussi longtemps qu'on n'a pas obtenu cette concession de l'Université McGill. Bref, les discussions qui n'ont rien donné. Maintenant, dans la presse ce matin, des chiffres assez troublants sur la violence faite aux femmes. Au moins 10 femmes à Montréal sont étranglées par semaine. Par semaine. Phénomène qui passe sous le radar. Il y a un projet pilote qui est lancé aujourd'hui par la police de Montréal. L'an dernier, 553 dossiers liés à des étranglements, ont été autorisés par le directeur des poursuites criminelles et pénales. Il y a eu au total 6520 événements liés à la violence conjugale en 2023. Ce qui est énorme. Est-il besoin d'ajouter que les femmes qui sont victimes d'étranglement sont des femmes qui risquent beaucoup et dans bien des cas, c'est le prélude à un niveau de violence plus élevé puis ultimement un féminicide. Et quand vous lisez les propos de la commandante qui est en charge justement de toute la section de la violence conjugale au SPVM, elle s'appelle Anouk Saint-Onge, c'est là que vous mesurez, je vous dirais, comment l'étranglement peut être un outil pour faire peur à des femmes, pour les faire taire, et que ça passe vraiment inaperçu. Elle raconte s'être rendue aux États-Unis pour découvrir finalement que quelqu'un qui étrangle, ça ne veut pas dire que en serrant, il y a des marques qui vont rester sur le cou. Ça ne veut pas dire que la victime va s'en souvenir. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas donner l'impression d'être en état d'ébriété quand elle marche, parce qu'on lui a comme coupé l'air pendant un certain temps. Ça, c'est le premier volet ce matin. Et on le sait, le nombre de femmes assassinées depuis le début de l'année dans un contexte familial est malheureusement à la hausse. On l'a remarqué, il y a eu des années très fortes, beaucoup de cas, mais on dirait que c'est reparti en 2024. Puis en même temps, Radio-Canada qui nous parle de la volonté du ministre Jolin Barrette également de mettre le projecteur sur une autre forme de harcèlement puis d'intimidation entre conjoints. Et je vais inclure les femmes et les hommes, parce que ça se joue des deux côtés, c'est ce qu'on pourrait appeler de la violence judiciaire. Tu veux écœurer ton ex, t'as de l'argent, tu multiplies les recours, les tentatives d'ordonnance, les comparutions devant le juge, ce qui fait que l'autre partie doit se défendre et se retrouve avec des honoraires d'avocats très élevés. Ce qu'on appelle des quirulants. Des gens qui disent « je vais t'écœurer au maximum, gars ou fille ». Et dans ce reportage de Radio-Canada, on donne des exemples assez communs de femmes, par exemple, et même d'hommes, mais surtout de femmes là, qui ont dépensé 12 000 $ en frais d'avocat. Un prof d'université qui a harcelé son ancienne compagne de vie, condamné le 3 octobre dernier, a versé 95 000 $ en dommages et intérêts à son ex-conjointe. Et parmi les mesures proposées, c'est de faire en sorte que ce soit idéalement le même juge, la même juge qui s'occupe du dossier et qui sera en mesure de voir l'espèce d'intimidation, d'harcèlement, de procédure exagérée dans le cadre d'un divorce puis de l'aménagement d'un cadre financier après une rupture. C'est loin d'être fou parce que on sait que, et pas juste dans le cas de séparation là, mais que souvent des gens qui ont les moyens vont utiliser l'arme légale pour neutraliser l'autre partie. C'est pas tous les gens qui ont les moyens de se défendre, puis il y en a qui en profitent. Et d'ailleurs, dans le cas de la loi passée à Québec pour, disons, venir à bout du harcèlement en ligne, puis de l'intimidation, puis des menaces déposées par Québec. Plusieurs y voient une limite à la liberté d'expression, c'est vrai. Mais quand vous insultez, quand c'est la haine au bout de votre clavier qui résonne, ben c'est sûr que je pense qu'il n'y a personne qui a subir de tels comportements. Critiquer, pas être d'accord, c'est une affaire, mais tomber dans le niveau de la violence verbale, c'est une autre affaire. Puis la ministre Laforêt pourrait faire en sorte qu'on ait comme des espèces de gens qui soient identifiés, qui aient des injonctions, qui ça limite leurs droits. Et les droits, c'est important, là, la liberté d'expression. Mais pour des gens qui décident, dans l'anonymat souvent, d'insulter puis de multiplier les attaques agressives contre des élus, mais contre n'importe qui, il y a toujours bien des limites. Et là, vous savez qu'il y a des amendes de prévues, puis il y aura peut-être ce qu'on appelle espèce de registre, c'est une idée qui circule, de gens qui sont des quirulants, qui font rien que ça dans la vie, insulter, menacer et, disons, ne pas lâcher les gens qui sont connus, des gens dans la sphère politique, des élus, puis au monde, dans le monde municipal, c'est encore plus tordu à bien des égards. Puisqu'on parle de violence, je vous raconte ce matin l'histoire d'une intervenante de la DPJ qui a été agressée en plein palais de justice à Sherbrooke hier. C'est la Tribune qui rapporte les détails, mais j'ai reçu beaucoup de courriels d'intervenantes, de collègues de cette femme. Donc, une jeune femme qui a été agressée. Ce qui s'est passé, c'est absolument renversant. Elle s'est fait projeter la tête première dans un mur de briques par une mère qui est en colère. Et après l'agression, cette intervenante a réussi à se réfugier dans un local. On l'a évidemment pris en charge. Conduite à l'hôpital, blessure superficielle, mais quand même, on peut imaginer le choc. La mère, elle, a menacé de piquer l'intervenante et aussi menacé un constable spécial de le battre. On devine que c'était une cause DPJ, que la mère a pété sa coche et s'en est pris à tout ce qu'il y avait autour, et en particulier à cette intervenante. Et si je me fie au courriel reçu, ce sont des intervenants, intervenantes qui ont... sont pas mal secoués par ce qui est arrivé. Puis là, ça remet en question la sécurité dans les palais de justice, parce que si cette femme-là avait eu un couteau, elle aurait eu le temps de poignarder l'intervenante. Et on revient sur le débat des arches de sécurité. Est-ce qu'il y avait assez de constables spéciaux au palais de justice? D'après ceux qui m'ont écrit, il en manquait. En tout cas, il n'y en avait pas assez. Mais ça met en lumière, donc, on le sait, la difficulté pour la DPJ, les intervenants, de faire le travail. Parlons de Nordvolt, victime de vandalisme et également de saccage. Et il y a Nordvolt, mais également un sous-traitant. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Parlait hier de cocktail Molotov. Là, on parle plutôt d'engins incendiaires qui avaient un mécanisme qui n'a pas fonctionné. En fait, deux objets en question qui ont été retrouvés sur l'immense chantier de Nordvolt. Alors, vous comprenez qu'on a beau avoir de la sécurité, mais même si elle a été renforcée, ça demeure quand même un immense terrain, puis on peut pas tout surveiller ce qui se passe. Alors, ça veut dire que hier, on a dû interrompre les travaux. Le président de la compagnie est sorti en disant, on peut contester, on peut critiquer, mais là, on est dans la violence comme telle. Et l'autre élément qui, je pense, est important, là, parce qu'il y a eu d'autres cas de sabotage. Le Journal de Montréal fait une bonne recension de ça, là. Depuis l'annonce du projet, il y a une entreprise qui s'appelle le Centre de valorisation du bois urbain, qui est une entreprise d'économie locale à but non lucratif, qui a obtenu un contrat de Nordvolt pour récupérer le bois, les arbres qui sont coupés. Et je vais parler avec le DG tantôt. Dans son cas, en fait, le cas de son entreprise, il y a eu de la peinture qui a été aspergée sur les murs, on pense avec un fusil à eau quelconque. Et lui, il dit, je comprends pas. Si on n'était pas là pour reprendre les arbres, faire un tri, s'assurer que le bois est récupéré de façon maximale, comme efficacité, ben ce serait probablement des déchets de construction. Alors, il y a de la misère à comprendre pourquoi cette petite entreprise d'économie locale a été visée. Par qui, on le sait pas trop. On peut deviner la motivation. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'arrestation dans ce dossier-là. Et puisqu'on parle de ces grandes entreprises, ce matin, la presse nous dit que Ford et ses partenaires ont décidé de ralentir le projet de la filière de batterie à Bécancour en raison de défis financiers importants. C'est un chantier qui est au neutre, alors que plusieurs étages sont déjà construits, déjà aménagés. Donc, on a expliqué au gouvernement que c'est un projet, faut le rappeler, de Ford avec des partenaires sud-coréens, et que en raison de problèmes financiers, on parle d'une perte trimestrielle de 1,3 milliard de dollars dans le volet électrique chez Ford, et des ventes qui dégringolent également. Alors, c'est un projet qui, pour les promoteurs, suscite un peu moins d'intérêt. Ça ne veut pas dire que ça se fera pas. Ça veut dire que pour l'instant, on est en train de revoir un peu peut-être l'échéancier puis le financement de cet immense chantier. Un mot aussi sur le Journal de Montréal ce matin qui revient sur les jeunes et la consommation d'écran, le temps passé devant l'écran. C'est assez incroyable. D'abord, ce qui est clair, c'est que les ados et les enfants font généralement moins d'activités physiques. Seulement 22 % des jeunes de 5 à 17 ans ont pratiqué plus de 2 heures par jour de jeu à l'intérieur ou à l'extérieur, mais disons une activité physique. Le temps extérieur s'est perdu depuis les 20 dernières années. Donc, ils font quoi? Ils passent beaucoup de temps devant le téléphone, devant la tablette, devant l'ordinateur, devant la télé. Et on se rend compte qu'une heure d'activité par jour, de 8 à 11 heures de sommeil par nuit, et plus de 2 heures de loisirs, pas plus, c'est-à-dire que 2 heures de loisirs devant l'écran, il y a seulement 4% des enfants qui font tout ça. Paul Saint-Pierre Plamondon revient à la charge en disant il faut sortir les cellulaires des écoles. L'Ontario a pris des mesures beaucoup plus strictes que le gouvernement du Québec. Le ministre Drainville nous disait vendredi qu'il est en train de réfléchir, mais de couper l'accès à l'école aux réseaux sociaux, c'est loin d'être fou. Et ça, c'est une mesure qui peut être efficace. Mais en même temps, et je pense que c'est pas à l'État non plus à gérer l'ensemble des activités, les parents ont une responsabilité, mais j'étais dans un resto en fin de semaine et l'image est forte. Vous avez 2 parents et 2 enfants qui sont assis pour le repas. Et j'observe. Les 4 sont sur des tablettes ou des téléphones. Les 2 parents et les 2 enfants, fin de l'enfance, début de l'adolescence. Ils ne se sont pas dit un mot du repas, à part quelques banalités. J'étais à l'extérieur de Montréal, là, aux États-Unis. Fait que tu peux observer plus discrètement comme ça. Mais c'était tellement fort comme image, tu dis, là on se plaint, les enfants sont tout le temps devant l'écran, puis ils passent beaucoup trop de temps à jouer au téléphone, puis comment ça se fait? Excusez, là, mais l'exemple vient de haut, là. Quand vous avez des parents qui passent leur temps devant l'écran, devant le téléphone, s'occupent pas... lors d'un repas, je veux juste le préciser aussi. Alors, c'est sûr qu'il y a sans doute moyen de peut-être aussi faire un auto-examen, puis se dire peut-être que je peux fermer mes affaires éventuellement aussi. Ah, Seigneur! Là, vous savez que la ministre Guilbeault se donne jusqu'à l'été pour régler le déficit du transport collectif. Rencontre avec les maires, puis avec les gens des différentes sociétés de transport, puis la RTM, puis que... c'est-à-dire, on est tous là dans un mode extrêmement positif. Après la confrontation quêteux et gratteux entre Québec et les maires, là, c'est l'harmonie qui est de retour. La ministre Guilbeault a recentré le discours en fin de semaine en disant « Non, non, ça m'intéresse, moi, le transport collectif. » Mais en même temps, puis elle a raison, c'est pas vrai qu'on fait des chèques en blanc. Alors, on va parler avec la RTM tantôt. Volonté de régler le déficit structurel récurrent du transport en commun. Mais quand on parle d'argent, là, le Journal de Montréal nous apprend que l'Office de consultation publique de Montréal, cette patente inutile qui a été créée et qui a permis à des gens de manger sur le bras et de voyager, a dépensé 72 000 $ pour développer un nouveau site Internet jugé non nécessaire par le nouveau PDG et probablement aussi un nouveau site qui va finir à la poubelle. Et là, vous avez évidemment Guy Grenier, sympathique fonctionnaire, qui a voyagé, qui est tout fier évidemment d'un passage à la ville de Paris. Et là, on a une copie d'un courriel qui est obtenu par une demande d'accès à l'information. Mais il faut s'entendre pour dire que on parle de ça à cause de Québécois. Autrement dit, là, ils jouent à cache-cache avec les journalistes de Québécois. Il faudra leur dire, ou il faudra dire à tous nos collaborateurs que c'est plus simple aussi. Il y a danger d'avoir des demandes d'accès à l'info si on sort le logo. Les êtres inutiles qui occupent des espaces à l'hôtel de ville sont nombreux. Et je comprends que vous allez me dire c'est une pinotte dans l'océan des dépenses de la ville. C'est pas grave, c'est un symbole. Alors, ils ont décidé de mettre ça sur la glace et surtout la crainte qu'on leur pose trop de questions. Et je rappelle que je ne crois pas à la pertinence de cette patente-là et surtout pas à la hauteur des sommes investies. Alors, le détail, vous allez retrouver ça dans le Journal de Montréal. Il y a aussi, et je vais terminer là-dessus, ce dossier assez troublant dans la presse ce matin sur des personnes Et c'est vraiment des cas lourds de gens qui sont handicapés. Et c'est le sort réservé, encore une fois, des personnes vulnérables. Puis les titres sont épouvantables. Ils en ont fait un légume. Faire ses besoins dans le bain. C'est le cas d'un jeune homme de 37 ans qui est lourdement handicapé. Vous dire une chose, ces personnes qui sont vulnérables sont dans bien des cas laissées à eux-mêmes et abandonnées, sont silencieuses, ils n'ont pas de syndicat, ils n'ont pas de lobby, ils font pas de bruit, puis de temps en temps, il y a un article comme ça qui nous rappelle leur existence.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Alors, rencontre au sommet hier entre la ministre Geneviève Guilbeault, les élus, bref, tous ceux qui ont à cœur le transport collectif à Montréal. Le ton a baissé et la ministre promet de trouver une solution au déficit d'ici l'été. Benoît Gendron est avec nous, c'est le directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Monsieur Gendron, bonjour.
Bonjour.
Des questions pour que tout soit clair. Le déficit et de combien pour Montréal?
Pour Montréal, la région métropolitaine, on parle de 561 millions de dollars pour 2025.
OK. La ministre dit, moi, je ne paierai pas ça au complet. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien Québec est prêt à injecter?
En fait, Québec là, s'est engagé à payer ce qu'il appelle le déficit conjoncturel, c'est-à-dire ce qui est lié à la pandémie. Donc, il y a une rencontre cette semaine là, pour clarifier justement quel est le déficit conjoncturel. Nous, on a déposé dans le cadre du mémoire prébudgétaire du gouvernement du Québec un montant qui représentait une perte de revenus tarifaires de l'ordre de 284 millions. Donc, c'est ce que vous avez entendu récemment dans les journaux, là, 70 % de 284, donc à peu près 200 millions.
Ça veut dire que vous allez devoir quoi? Recalculer si cette partie-là n'est pas épongée, il y aura des coupures dans les services. Comment vous allez gérer ça?
En fait, il y a trois scénarios qui ont été mis sur la table là, auprès de notre conseil d'administration qui est en discussion présentement à la CMM. Donc, les trois scénarios, c'est une augmentation évidemment des quotes-parts municipales. Les usagers sont déjà ont quitté, donc ça donne rien d'augmenter de façon là, trop importante les recettes tarifaires. Fait que ce qui nous reste, là, les deux seuls autres leviers, c'est la réduction des dépenses et la taxe sur l'immatriculation des véhicules, qui est maintenant un nouveau pouvoir que le gouvernement a accordé aux villes.
Là, je veux juste comprendre exactement comment ça fonctionne. Vous êtes à l'agence, l'autorité, là, puis vous gérez, supervisez le transport des sociétés de transport. Exact. Là, on nous annonce une agence. Quel est le rôle qu'on vous a expliqué de cette agence sur le transport en commun?
En fait, c'est même, on a même nous fait des représentations pour avoir une agence pour la réalisation des projets. Donc, une équipe spécialisée dédiée à réaliser des projets en transport collectif. Évidemment, ça vient de façon séquentielle, les projets en transport collectif. Donc, pour maintenir l'expertise, on a proposé, il y a quelques années au gouvernement, de dire que ça serait bien qu'il y ait une équipe spécialisée qui ne fait que ça. Donc, il y a assez de projets à travers le Québec pour générer une petite équipe qui va se spécialiser dans la réalisation des projets.
Là, vous me dites ça, puis ce qui m'inquiète, pour tout vous dire, là, c'est qu'on met une couche de plus dans la structure qui est déjà lourde. Moi, je parle avec des élus. La ministre Guilbeault dit que chez vous, là, vous êtes des spécialistes des PowerPoint, que vous inondez le ministère, que c'est une bureaucratie qui alimente comme ça d'études puis de données. Les maires à qui je parle disent que vous êtes 23 autour de la table puis qu'il n'y a pas grand-chose qui se décide. Bref, que vous n'êtes pas efficace. Pas vous, là, mais la structure que vous représentez.
En fait, là, il faut comprendre que dans le contexte actuel, quand il manque 500 millions, moi, le conseil d'administration m'a mandaté pour regarder toutes les pistes possibles d'optimisation. Quand je dis toutes les pistes, là, dire est-ce qu'on peut regrouper toutes les sociétés de transport en une seule? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des réductions de coûts de système de façon là, globale dans l'ensemble des services de transport collectif? Donc, on a regardé, évidemment, plusieurs scénarios et c'est ce qu'on présente présentement. et pour lesquels là, il faut aller chercher le l'aval dans un premier temps de notre conseil d'administration. Puis par la suite, on fera les représentations auprès du gouvernement en termes de changements législatifs nécessaires ou pas. Là, on verra.
Mais êtes-vous efficace?
Ben, par rapport au mandat qu'on a, oui. Je vous dirais notamment, là, on a fait la refonte tarifaire. On dépose la vision du plan stratégique là, dans les prochains mois au conseil d'administration. Donc, évidemment, l'arrivée de l'ARTM dans la gouvernance des transports collectifs, là, c'est un modèle qui est à travers le monde. Évidemment, au début, les acteurs étaient se voyaient enlever quelques pouvoirs, donc il y avait une résistance. Maintenant, mais, je vous dirais que ça s'est atténué là, depuis un an et demi. Okay. Chacun voit son rôle.
Moi, ce qu'on me dit, là, c'est qu'il y a beaucoup de temps consacré aux guerres de juridiction. Il y a beaucoup de temps consacré. Là, le ministre a demandé des audits des sociétés de transport. Autrement dit, elle pense, elle, que c'est pas très bien géré. Puis avant de vous faire un chèque, elle veut s'assurer que c'est administré correctement. Est-ce qu'elle a raison de penser que c'est pas bien géré actuellement?
En fait, c'est des deniers publics. Puis je pense que chacun doit s'assurer de dépenser chaque dollar qui vient du public de façon la plus efficiente possible. Donc, c'est ça qui va être regardé dans le cadre des audits qu'elle a demandé.
Mais vous, est-ce que vous avez l'impression que c'est bien géré actuellement?
Ben, nous, on ajoute maintenant dans les contrats qu'on donne aux sociétés de transport des indicateurs de performance. On a livré à notre conseil récemment la performance de chacun des circuits d'autobus à travers l'ensemble de la région métropolitaine pour justement que les membres du conseil soient en mesure de s'interroger sur la performance des services. Donc, de plus en plus, on s'en va vers des données factuelles prendre des décisions.
Ouais. Est-ce que nos services sont performants?
Je vous dirais, dans l'ensemble, elles le sont. Performant les services. Par contre, il y a quelques circuits pour lesquels à des heures, exemple le soir tard, où est-ce qu'il y a beaucoup moins de fréquentation. Donc, c'est des questions qu'on va devoir se poser, à savoir comment on substitue le gros autobus de 40 pieds qui se promène par un transport, exemple à la demande.
OK. Le REM qu'on a inauguré, ça va faire un an, là. Est-ce que ça, d'après vos études, ajouté des usagers au transport en commun ou c'est un transfert? C'est des gens qui prenaient l'autobus, qui venaient par les d'autres moyens, mais pas par l'auto. Autrement dit, est-ce que le REM a bouffé le transport en commun?
En fait, le transfert modal qu'on appelle, c'est-à-dire des gens qui sont passés de l'auto vers le REM, on estime à peu près 10 % là, pour le REM.
OK, le 90 % vient?
Vient du transport collectif antérieurement, c'est-à-dire des gens qui utilisaient les autobus qui traversaient via le pont Champlain.
Ça veut dire que les sociétés de transport qui ont perdu de l'argent puis de la clientèle, c'est au profit du REM.
En fait, c'est l'autorité qui a perdu de l'argent. Les sociétés de transport, maintenant, perdent plus d'argent. Les revenus s'en viennent à l'autorité. Donc, oui, on a... C'est comme une tarte, si vous voulez. Il y avait trois, quatre joueurs alentour de la table pour la tarte. Maintenant, il y a un nouveau joueur. Donc, la tarte n'est pas bien, bien plus grosse, puis on doit se la partager.
Je vais vous donner deux exemples, là, puis ça résume pas mal ce que mes auditeurs disent. Pourquoi c'est si compliqué, la tarification, de passer de la zone A, de la zone B? Je vous raconte une histoire bien vite, là. C'est une fille de 18 ans. Elle est au cégep. Elle prend le métro de Rosemont jusqu'à Bonaventure. Elle se rend à la gare centrale. Prend le REM, toujours avec le même type de transport. On est d'accord jusque-là. Et pour emprunter le REM, Elle embarque dans le REM, puis là, il y a comme une erreur sur le titre de transport. Elle a indiqué Montréal au lieu de Rive-Sud. Elle a reçu un ticket de 270$. Puis j'en ai, je sais pas combien comme ça. Pourquoi, un, c'est compliqué? Pourquoi on écœure des gens de prendre le transport en commun comme ça?
En fait, il y avait deux types de tarification possibles à l'époque quand on a consulté l'ensemble de la population. Là, il y en a un qui est à la distance parcourue, là, qu'il y a beaucoup d'endroits en Europe, notamment, qui sont comme ça, là. C'est-à-dire, vous payez en fonction de la distance que vous parcourez. Ça nécessite une chose, ça nécessite une validation à l'entrée et à la sortie. Qu'on n'a pas à Montréal, il faut comprendre que la validation n'a lieu qu'à l'entrée et non pas à la sortie. Donc, ce que les gens ont préféré, c'est justement une tarification qu'on appelle zonale, qui représente les territoires géographiques pour que ce soit facile pour les gens. Là, il y a Montréal, il y a Laval, il y a Longueuil, Couronne-Nord, Couronne-Sud. Donc, c'est là où les zones sont arrivées A, B et C.
OK, mais pourquoi on n'a pas un tarif qui regroupe ce qui est sous votre juridiction, qui est l'autorité régionale? Les maires sont tous autour de la même table, puis le citoyen, lui, qui se promène avec A, B, C.
Oui, en fait, là, ce qu'on veut regarder, c'est de simplifier ça une deuxième fois. Là, monsieur Arcand, on est passé, rappelons-le, de 850 titres à peu près une cinquantaine de titres maintenant. Donc, la prochaine étape, c'est de dire comment on peut encore faciliter
la vie. Comment 850 titres?
Initialement, il y avait 850 titres quand l'autorité a été créée. à travers la région métropolitaine. 850.
OK, mais pourrais-tu en avoir un?
Ben là, on vise à en avoir le moins possible.
On peut-tu en avoir un?
Ce qu'il faut faire...
Ce que mon ami Ferrandez me dit, là, c'est que Montréal et Vancouver sont les deux seuls endroits sur des courtes distances où il y a une multiplication des titres.
Ben, plus maintenant avec la zone A. L'ensemble de la zone A, c'est tout le territoire de Montréal. C'est un seul titre.
Non, mais Montréal, Laval, c'est un autre titre.
Oui.
La Rive-Sud. Fait que si c'est j'ai le malheur de partir, là, je vous donne un exemple. Ben oui. Je pars encore de Montréal, je m'en vais prendre le REM, ça me prend deux titres, là, faut que je paye. Puis quand, si j'ai par malheur l'idée d'aller à Longueuil, par autobus, ben là, ça me prend un autre titre.
Mais tout ça, on va résoudre ça soit par une simplification ou soit par ce qu'on instaure, là, c'est-à-dire le paiement là, via le système Opus qu'on est en train de remplacer.
Ça, là, ça a pris du temps. Là. On est dans une autre époque. Est-ce que je me trompe si je dis que la technologie implantée est déjà dépassée?
Présentement, celle qu'on vient d'implanter, pas du tout. Opus, il faut comprendre que ce qu'on vient d'implanter, c'est-à-dire la recharge sur mobile, est une technologie tout à fait nouvelle. Par contre, notre système Opus n'a pas été changé encore. Ça, c'est le back-office qu'on peut appeler. Là, c'est le vieux système qui a 15 ans maintenant.
Pourquoi quand je prends le transport en commun ailleurs dans le monde, je prends mon téléphone, cling, puis je rentre, puis c'est fini?
Ça a pris 10 ans à implanter ça ailleurs également. Là. Donc, nous, on apprend de ce qui s'est passé ailleurs pour aller un peu plus vite. Là,
nous, on est en retard.
Oui, oui.
Fait, on a du retard informatique de rendre ça plus agréable pour l'utilisateur. Puis on va se ramasser avec des technologies qui vont être dépassées vite.
Non, je penserais pas. Là. On va être à la fin de pointe des nouvelles technologies. Là, on planche beaucoup à remplacer ce qu'on appelle la carte Opus, pour ceux qui le peuvent, avec un téléphone cellulaire. Donc, c'est la prochaine implantation.
Et c'est pour quand, ça?
On vise à accélérer. Initialement, c'était prévu en 2026, M. Arcan. Là. On va revenir, on est en train de regarder pour dire comment on peut faire ça le plus vite possible. C'est ce qui a le meilleur bénéfice pour l'usager. Autrement dit, ça va lui permettre justement de bien choisir son titre plutôt que d'avoir une carte sur laquelle il peut même pas voir ce qu'il y a dessus, mis à part le téléphone.
Okay, je vous donne un autre exemple. Les fameuses navettes fluviales. Des consommateurs heureux ont pris ça. C'est un projet pilote, là. Puis ils partent de Pointe-aux-Trembles, puis ils s'en viennent dans le Vieux-Port, puis c'est le bonheur. Là, cette année... Puis j'ai lu votre communiqué, puis j'ai rien compris. Ils se font dire par la société qui gère ça qu'il y aura moins de services, qu'on a réduit la fréquence un peu. Puis bon, d'abord, est-ce que c'est vrai que la fréquence est réduite?
En fait, on a le même niveau de service que l'an passé. L'année passée, il faut se rappeler, là, il y a eu deux temps. Donc, il y a eu un premier temps où il y avait l'annonce des services. Et par la suite, il y a eu les enjeux du pont Louis H. Lafontaine dans lequel on est venu mettre une navette qui a été extensionné dans le temps, qui a fini un peu plus tard. Donc, on avait eu des représentations pour extensionner cette période-là également à l'automne, puis faire finir la navette là, au mois de novembre. Ça venait principalement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles.
Oui.
Donc, on l'a mis en place. Là, on part avec le même niveau de service. Et s'il y a de la demande, on va en ajouter. Il faut comprendre que 90% de mes déplacements ont lieu entre juin et septembre.
Okay,
il y a très peu de gens qui l'utilisent en octobre et en novembre.
Je suis bien d'accord. Mais pourquoi le fournisseur dit aux gens qui posent des questions, vous allez avoir moins de services, il y a moins d'argent sur la table? C'est ça qu'ils se sont fait dire. Là.
En fait, nous, on a confirmé le contrat initial comme l'an passé. Puis s'il y a un contrat subséquent à y avoir en fonction de la demande, il va être donné ultérieurement.
OK, mais y a-tu plus de navettes?
Il y a le même nombre que l'année passée.
Puis vous êtes prêt à augmenter le nombre de navettes?
On est prêt à augmenter dans la mesure où il va y avoir de la fréquentation.
Vous comprenez pourquoi, quand vous me parlez, ce qui était mentionné au début, de la possibilité d'augmenter encore l'immatriculation. Je pense que les Montréalais, puis là j'inclus les Lavallois puis les Longueuillois, ils n'ont pas envie de vous faire un chèque en blanc. Moi, j'entends des élus dire que la structure ne marche pas, que ça décide lentement, que c'est du placotage. La ministre me répète la même affaire, puis elle va être ici vendredi, puis elle va sans doute me dire la même affaire. Puis là, vous me demandez encore plus d'argent.
En fait, M. Arcan, là, vous connaissez l'ampleur du déficit. Il est clair que dans la mesure où le gouvernement se retire graduellement du financement, c'est-à-dire qu'il finance que la partie conjoncturelle qui va disparaître à un moment donné, là, c'est-à-dire les effets de la pandémie vont disparaître, il faut trouver, nous autres, des sources de revenus différentes ou réduire les dépenses. J'ai plus d'autres places, là. Donc, c'est les deux pans qui sont regardés de façon très active. On a déposé à notre conseil plusieurs scénarios qui sont en examen et sur lesquels on devrait avoir des résultats.
Est-ce que ça se peut qu'on se retrouve avec une combinaison, c'est-à-dire que ça me coûte plus cher par l'immatriculation et que le service soit moins efficace, moins bon, réduit?
disons que ce qui est visé présentement, c'est de dire comment on peut réduire les dépenses, les optimiser sans affecter le service à la clientèle. C'est ce qui est visé.
OK. Est-ce que vous parlez des fois à la ministre?
On parle à la ministre, on y a parlé notamment la semaine dernière. Là,
puis est-ce qu'elle vous brasse? Est-ce qu'elle vous chicane? Est-ce qu'elle vous gronde?
Ben, elle avait avec raison, là, elle n'était pas contente notamment de la recharge Opus. Il faut comprendre, là, puis... Moi, je m'excuse auprès des citoyens. Là. Le blâme, là, c'est l'autorité qui doit le prendre. Là. On a mal évalué ce qu'on appelle le nombre de transactions non complétées. Et on avait un montant sur une base quotidienne, pour vous expliquer ce qui est arrivé par vos auditeurs, c'est qu'on avait 50 000 $ de transactions non complétées parce qu'au bout de 30 minutes, on doit rembourser le client. Donc, ça, c'était atteint le 1er mai.
Regardez.
Ce qui a fait en sorte qu'on a arrêté pendant 3 heures pour monter ce seuil-là.
Moi, ce que j'ai compris, là, c'est que le 1er mai, il y a beaucoup de monde.
Oui.
C'est normal, c'est le premier du mois. Puis ce que j'ai compris, c'est que c'est la faute de l'utilisateur qui n'a pas saisi la complexité de votre opération.
Moi, je prends
en
de
deux temps, là. Tu sais, c'est pas fort, celle-là. Là.
Je prends de l'arme, M. Arcan, là. Oui. On a mal évalué le nombre de transactions qui étaient non complétées. Mais il faut comprendre que pour l'usager, c'est nouveau, là. Puis c'est normal qu'on a fait des tests, mais malgré les tests, probablement que les gens étaient des gens plus enclins à la technologie. Tandis que là, on a frappé le nœud au niveau d'une recharge, puis c'était pas intuitif. Là. Quand on met notre carte à l'arrière, je l'ai essayé moi-même, à la fin, là, il faut recharger la carte Opus.
Mais pourquoi?
Ben, c'est le lecteur du téléphone.
Pourquoi je ne le passe pas une fois, puis c'est tout?
Au début, on lit. Par la suite, on fait la transaction, puis là, il faut mettre le titre sur la carte Opus. C'est ça qui se fait là, en dernier. C'est ça où les usagers... Disons qu'on va le rendre plus convivial et plus facile à interpréter comme travail.
Merci d'être venu ce matin.
Et merci.
Benoît Gendron est le directeur général de l'Autorité régionale du transport métropolitain.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Ah ben, le chiffre cogne quand on apprend qu'à Montréal, il y a au moins 10 femmes par semaine qui sont victimes d'étranglement dans un contexte de violence conjugale. Ce sont les données qu'on retrouve dans la presse. Ce matin, il y a un projet pilote qui est lancé par la police de Montréal, le SPVM, et le DPCP pour donner une meilleure formation parce que ça passe sous le radar. Ce sont des gestes violents qui, dans certains cas, laisse pas de marque apparente, difficile aussi de distinguer par rapport à d'autres comportements. Puis on comprend que quand ça arrive, ben c'est peut-être le prélude à des actes plus violents avec, vous le savez, le nombre de féminicides qu'on enregistre. J'en parle avec la commandante Anouk Saint-Onge, qui est la chef de la section spécialisée en violence conjugale au SPVM. Madame Saint-Onge, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcan.
D'abord, comment vous avez réalisé l'ampleur de ce phénomène-là?
En fait, j'ai suivi une formation en 2021 aux États-Unis, puis il y avait un atelier sur les étranglements. Donc, j'ai assisté à cet atelier-là en me disant que ça m'intéressait, mais j'ai réalisé que j'avais plusieurs mythes et préjugés moi-même et que j'avais appris plein de choses nouvelles par rapport à l'étranglement. Puis, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est de prendre ce que j'avais appris aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils ont vraiment une approche dans certaines villes, dont San Diego et Dallas, une approche complètement différente de ce qui se faisait au Québec. Donc, j'ai voulu partir avec ce qui se faisait ailleurs, puis importer les bonnes pratiques au SPVM, mais également à mes collègues aussi au Québec, là, parce que ça va au-delà du SPVM, ce projet pilote.
OK. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que les Américains avaient découvert et qui ont partagé avec vous?
Ben, ce que j'ai appris, c'est que l'étranglement laisse très peu de traces. On a comme l'impression qu'une femme ou une personne qui se fait étrangler va avoir des marques très visibles au cou. C'est pas le cas. Donc, si elle a pas de marques, c'est comme si on pense que c'est pas grave ou que c'est pas vraiment arrivé. Donc ça, c'est vraiment faux. On pense que les victimes vont nous le mentionner d'emblée, qu'ils se sont fait étrangler, mais il est prouvé qu'en général, il faut qu'on leur pose la question pour qu'ils nous le disent. Puis l'autre chose, il y a des fois, je veux dire, c'est clair que dans certaines situations, ils se sont évanouis, puis ils se souviennent même pas qu'ils se sont fait étrangler. Fait que ça, c'est une autre chose. La pression est assez minime pour avoir des impacts importants. On a comme l'impression qu'il faut une très grande pression, mais une pression minime peut avoir des impacts, puis les impacts peuvent survenir vraiment après. Ça, c'est vraiment quelque chose que je savais pas, mais tu sais, des mois après, il peut avoir des conséquences à un étranglement.
Je regardais les chiffres, là. L'an dernier, 553 dossiers liés donc aux étranglements ont été autorisés par le DPCP, ce qui est évidemment énorme. Mais comment on fait pour monter un dossier et établir la preuve que cette femme-là a été victime d'étranglement?
Ben, la première chose, c'est sûr que il faut qu'elle nous le relate, là. Ça c'est la première chose. Mais avec le projet pilote, ce qu'on permet aux policiers, c'est de mieux comprendre puis de poser des meilleures questions à la victime. Fait que là, actuellement, tu sais, on en fait des dossiers d'étranglement puis les dossiers sont autorisés. Mais avec le projet pilote, ce qu'on pense, c'est que, étant donné qu'on va poser, on a vraiment un complément, là, qui a été créé spécifiquement pour le projet pilote où on vient poser des questions très précises sur l'événement. Ce qui se faisait pas nécessairement avant, parce que les policiers n'avaient pas ces connaissances-là qu'ils ont maintenant. Et on pose aussi des questions en lien avec les signes et les symptômes. Et aussi, ça, c'est très nouveau de poser des questions parce que il y a certains symptômes qui sont vraiment en lien avec l'étranglement. C'est que le policier va poser des questions parce que les symptômes ne sont pas nécessairement visibles. Les signes sont plus visibles vers le policier, mais les symptômes ne sont pas visibles. Admettons, elle a la voix rauque, mais le policier ne sait pas si avant l'événement, il y en a qui ont une voix rauque au quotidien. Donc, il y a comme une liste de questions que le policier va poser, puis qui va permettre de mieux documenter et de servir de preuve au DPCP. On va aussi prendre des photos. On en prend en ce moment des photos, mais l'identité judiciaire de Montréal a développé une technique là, d'utilisation de lumière qui fait ressortir les blessures qui sont sous-cutanées et qui ne paraissent pas à l'œil nu. Fait que ça aussi, ça va nous permettre de faire des dossiers beaucoup plus complets pour nos collègues du DPCP.
C'est fascinant de vous entendre, de voir les outils, les constats. Je lisais également qu'on peut avoir l'impression qu'une personne est sous influence, drogue, alcool, qu'elle titube. Et c'est pas le cas du tout, c'est carrément parce qu'on a tenté de l'étouffer.
Exactement, comme un peu la commotion cérébrale. Donc, le policier qui arrive, ben, il peut avoir l'impression que la personne est confuse. T'sais, l'histoire aussi, elle a subi un trauma. Hein. Il y a aussi ça, il y a l'effet de l'étranglement, là, le manque d'air, mais il y a aussi le trauma qui a un impact important sur la victime. Fait que tout ça mis ensemble peut faire en sorte que le policier se dit, voyons, c'est... Il semble que quand elle me le raconte, c'est confus. Est-ce qu'elle est sous influence de l'alcool? Mais pas du tout. Ça peut être, ça peut être strictement lié à l'étranglement et au trauma. Fait que ça change aussi la perception que le policier a dans l'intervention policière.
OK. L'autre considération que j'aimerais regarder avec vous ce matin, on a l'impression, il faut faire attention aux impressions, mais que la violence faite aux femmes est en augmentation. Depuis le début de l'année, des femmes agressées, assassinées dans un contexte conjugal ou familial, ça semble augmenter. Vous, là, c'est votre job. Est-ce qu'on a plus de cas, plus de plaintes, plus de signalements?
Cette année, en 2023, là, je pense qu'on a fourni les chiffres dans la presse, c'est 6520 crimes contre la personne en contexte de violence conjugale. Ça inclut pas tout ce qui est les crimes contre la propriété. Et tout ce qui est les bris de condition, les omissions, les bris de probation, on est près de 8000 cette année au SPVM. On note une légère augmentation, je vous dirais, par rapport à l'an passé. Mais c'est difficile de... Est-ce que c'est parce que les gens le rapportent plus? C'est ça qui est difficile à établir. Mais c'est sûr que le chiffre qu'on vous donne, c'est pas la réalité. Là. On sait très bien que c'est sous-dénoncé la violence conjugale, mais qu'il y en a beaucoup plus. Moi, je me plais à dire que c'est quand il y a plus de dénonciation, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne. La confiance est rétablie. Mais c'est extrêmement difficile de déterminer est-ce qu'il y en a réellement plus. Et il y a aussi un intérêt, tu sais, envers ces événements-là qui sont plus médiatisés puis qui font la lumière sur quelque chose qui se passait aussi dans le passé. J'ai un peu de difficulté à vous dire effectivement est-ce qu'il y en a plus.
L'autre question qui revient souvent, et je le vois par des témoignages que je reçois de femmes qui, après une séparation, il y a un règlement qui se fait, ou il y a un divorce, ou encore dans des cas de violence comme ça, il y a des ordonnances de cour qui sont brisées. Elles ont l'impression de vivre quand même sous la menace parce que c'est difficile. J'appelle la police, il est reparti, il n'est plus là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes?
On est conscient que le respect des conditions, là, quand il y a une personne qui est libérée avec des conditions, il faut qu'il les respecte. Il y a une partie que, tu sais, il faut que l'individu respecte ses conditions. Et la victime, elle doit nous appeler, puis on va faire un bris de conditions, on va le réarrêter, il va recomparaître. Puis ça, tu sais, à un moment donné, le fait qu'une personne ne respecte pas ses conditions, ça va parler, puis il va avoir des conséquences. Mais il faut nous appeler et nous le dire parce que nous, on est incapables. Sur tous les dossiers que je vous dis, 6520 dossiers, si on prend toutes ces personnes-là qui ont des conditions, on n'est pas capable, la police, de faire respecter les conditions à moins que la victime nous appelle. Donc, c'est important de nous appeler. Et oui, on va faire un dossier. Et oui, on va l'arrêter. Puis oui, il va repasser à la cour. Mais on a vraiment besoin que les victimes nous fassent confiance et nous relatent ces bris de conditions-là.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir, la commandante Anouk Saint-Onge, qui est chef de la section spécialisée en violence conjugale au SPVM. Puis j'ajoute ce matin un reportage à Radio-Canada sur la violence judiciaire. C'est quoi ça? Ça peut venir des hommes, ça peut venir des femmes, mais quand on a des moyens, on utilise nos ressources pour multiplier les procédures, multiplier les requêtes dans des chicanes interminables qui font que l'autre, dans le couple, a peut-être pas les mêmes moyens financiers puis se retrouve à payer des honoraires d'avocats très élevés, 12, 15 000, 20, 25 000, pour se défendre devant ces agressions à répétition. Le ministre Simon Jolin Barrette a mis des dispositions dans la loi pour s'assurer d'un certain nombre de j'allais dire, garde-fous, là. Par exemple, souhaiter que ce soit le même juge qui soit dans le dossier du début à la fin pour qu'il puisse constater les problèmes là, de gens qui sont quérulents ou des gens qui veulent juste se venger, qui savent très bien qu'ils n'auront pas gain de cause, mais ils savent qu'ils vont emmerder l'autre. C'est en étant présent, malgré la séparation, dans la vie. Et ça, la violence judiciaire, juridique, la guérilla, ben, malheureusement, ça existe dans beaucoup de cas. Parlons maintenant de ces actes de vandalisme, de sabotage qui visent le terrain de Nordvolt et aussi le local d'un sous-traitant de l'entreprise. Donc, espèce d'objet incendiaire retrouvé avec un mécanisme qui n'a pas fonctionné. On a vu le président pour Nordvolt ici, évidemment, dénoncer ces gestes de terrorisme, si on veut. Même chose du côté des ministres impliqués dans le dossier. Mais on a été un peu, je dois dire, surpris d'apprendre qu'un sous-traitant, le Centre de valorisation de bois urbain, a aussi été l'objet de vandalisme. Maxime Bourdeau est avec nous, c'est le directeur général du centre. Monsieur Bourdeau, bonjour.
Oui, bonjour, Jacques.
Peut-être d'abord nous décrire un peu les dommages là que vous avez subis.
Oui, certainement. Bien, en fait, on a constaté le vendredi soir qu'une vitrine avait été brisée à notre local à Saint-Bruno et il y a de la peinture brune qui a été aspergée sur absolument tout ce qui se trouvait à l'intérieur du local.
Est-ce que ça veut dire que les vandales sont entrés dans le local ou ils ont fait ça de l'extérieur?
De toute évidence, là, ils ont utilisé un fusil à l'eau rempli de peinture, puis ils ont utilisé des trous dans la fenêtre là, pour vandaliser. Fait qu'il ne devrait pas y avoir eu personne d'entrée.
OK. Est-ce que, la peinture, on comprend tout ça, est-ce qu'ils ont endommagé de l'équipement, par exemple, des ordinateurs?
Oui, absolument tout ce qui était à l'intérieur du local a été recouvert de peinture, là, donc le mobilier, l'électronique, les écrans, les claviers, tout.
OK. Dites-moi, quel est votre lien avec Nordvolt?
Oui, nous, on a eu le mandat en novembre dernier là, de procéder à la valorisation de tous les arbres qui allaient être coupés sur le site de Saint-Basile. Puis, comme la clé de la valorisation des arbres, c'est vraiment l'abattage. Il faut que ça soit bien fait. Il faut qu'on puisse l'optimiser. Donc, on a pris aussi le mandat de gérer ces abattages-là.
Si c'est pas une entreprise comme la vôtre, ça veut dire qu'on coupe les arbres, puis quoi, on s'en débarrasse sans trop se préoccuper de la suite?
Exact. La solution facile, si on veut, là, pour se débarrasser des arbres, c'est malheureusement souvent du broyage. Donc, on va tout broyer pour de la biomasse, tandis que nous, ben, on est une entreprise d'économie sociale, à but non lucratif, puis on veut optimiser chaque arbre pour pouvoir en retourner les bénéfices aux communautés. Donc, on fait beaucoup de boîtillage, on fait de la pâte à papier, on fait de la biomasse pour chauffer des serres. Donc, on optimise là, chaque arbre sur les sites.
Bon, si on parle d'éco-terrorisme, on a de la misère à comprendre pourquoi vous, vous êtes visé.
Oui, nous aussi. Nous aussi, on dit peut-être que notre message n'était pas assez clair. On essaie toujours de revenir avec l'importance de notre organisme et l'impact positif qu'on a. Mais visiblement, là, il y a des gens qui confondent le désir de couper des arbres puis le désir de valoriser des arbres. C'est pas la même chose.
Êtes-vous capable de poursuivre vos opérations, donc de donner une suite au mandat que vous avez, ou si vous devez faire une pause avec ce qui est arrivé?
Ben, c'est sûr que ça nous sort de notre focus, là. Ça nous sort, ça nous prend du temps qu'on peut pas consacrer à la mission de notre entreprise, mais bon, la magie des suites de la pandémie fait qu'on est efficace en télétravail. On a perdu nos bureaux pour les prochaines semaines, c'est sûr, là, mais on va quand même continuer notre mandat, autant avec Northvolt qu'avec les autres partenaires qu'on a.
OK. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a des gestes comme ça qui sont posés? Est-ce que vous avez déjà fait l'objet de menaces?
Bien, quand on a commencé les travaux d'abattage en janvier, on a eu quelques problématiques là, sur le site qui ont été médiatisées aussi. Donc, il y a eu des entrées par effraction, du vandalisme, des choses comme ça, mais puis aussi un peu, évidemment, là, de messages disgracieux sur les médias sociaux, mais jamais en dehors du site, même à Saint-Basile. Là. Donc, là, forcément, ça s'est retrouvé jusqu'au cœur du centre-ville de Saint-Bruno.
OK. Puis là, vous n'êtes pas trop découragé. Je comprends que c'est comme vous dites, là, c'est un impact là, sur vos activités, mais ça vous a pas fait peur, c'est ça, ma question?
Ben, c'est sûr que c'est on se pose des questions, mais non, est-ce que à savoir si ça nous refroidit pas du tout, ça serait de leur donner raison, en fait, là. C'est sûr qu'il y a un certain découragement, il y a surtout beaucoup de déception à voir qu'il y a des gens qui comprennent absolument pas c'est quoi l'organisme qu'on incarne, puis à voir c'est quoi notre mission. T'sais.
Merci d'avoir été avec nous, bonne chance.
Merci à vous.
Au revoir. Maxime Bourdeau est le directeur général du Centre de valorisation de bois urbain. C'est une entreprise, je le rappelle, d'économie locale, d'économie sociale. C'est à but non lucratif et ça permet de récupérer du bois pour des raisons, disons, d'efficacité énergétique. Et une entreprise qui a un rôle majeur, sinon, il l'a dit, les arbres, on s'en débarrasse. Là, on arrive à trouver des marchés secondaires. Visiblement, nos terroristes n'étaient pas au courant là, et ils savent pas trop ce qu'ils ont fait. Et du côté de la police, pardon, il n'y a pas d'arrestation. Puis on comprend que c'est un site qui est pas simple non plus à surveiller, puis que c'est un projet qui génère quand même pas mal de controverses. Maintenant, on a appris hier que l'Agence américaine de l'aviation civile ouvrait une nouvelle enquête pour déterminer si Boeing a effectué les inspections exigées sur ses avions. Et s'il y a des documents qui ont été falsifiés par des employés. Disons que ça fait une liste assez longue d'incidents qui visent Boeing. On en a parlé à plusieurs reprises avec Jean Lapointe, qui a été pilote, qui est un expert en aviation civile. Et dès que ce morceau, là, ce panneau s'est détaché, déjà à ce moment-là, il nous disait, attention, il y a eu, au fil des ans, des mises à pied chez Boeing, puis il y a peut-être des procédures qui n'ont pas été respectées. Monsieur Lapointe, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Êtes-vous étonné de voir que l'agence américaine là, déclenche une enquête?
Non, j'en suis très heureux. Et la nouvelle qui est sortie hier soir, M. Arcan, dit principalement deux choses. Qu'il serait possible que des employés sur les lignes de montage auraient oublié de faire les inspections de qualité requises sur des jonctions électriques entre les ailes et fuselages de certains Boeing 787. Et peut-être pire que potentiellement ces employés auraient falsifié les documents parlant de ces inspections. Ce qui est important de mentionner ici deux choses. Un, c'est que la sécurité des avions n'est pas affectée. On sait qu'il y en a plus de 1100 qui volent présentement. Mais le bon côté, je dirais, de cette nouvelle, s'il y en a une, c'est que l'annonce de ces manquements potentiels ne viennent pas de l'Agence fédérale américaine, mais d'un employé qui travaille sur la ligne de montage, un employé d'expérience qui aurait avisé dans les dernières semaines son superviseur, qui, lui, aurait immédiatement avisé l'agence l'Agence fédérale américaine. Et je pense que c'était normal qu'on lance cette enquête-là. Mais le fait que ça vienne de l'interne, il faut se demander ou comprendre si les employés actuels de Boeing, ayant vu leurs quatre ex-collègues lanceurs d'alerte passer devant le Congrès, M. Blumenthal, il y a quelques semaines, ont finalement repris le courage de dénoncer justement des procédures qui sont inacceptables sur de telles lignes de montage.
On reviendra pour ce qui est des lanceurs d'alerte, mais en même temps, c'est clair que le public qui voyage dit, bon, est-ce qu'on a tourné les coins ronds? Il y a eu des mises à pied, on n'a pas ramené tout le monde. Est-ce qu'on a laissé sortir des usines, des appareils qui n'étaient pas, disons, qui n'avaient pas été inspectés, qu'on n'avait pas fabriqués selon les règles les plus serrées?
Bien, évidemment, la réponse, c'est oui, M. Arcand, l'accident du mois de janvier, la porte bouchon qui a été éjectée de l'avion de l'Alaska Airlines le prouve clairement. Et dès les premiers jours, l'Agence fédérale américaine, par la voix de son patron, M. Michael Whitaker, avait mentionné qu'aucun avion jugé non sécuritaire ne sortirait des usines de Boeing et que celui-ci avait même invité les employés de Boeing à venir chez cette agence-là pour dénoncer des procédures justement inadéquates si Boeing ne voulait pas les enquêter. Mais on sent au cours des dernières semaines que Boeing, en ralentissant ses lignes de montage de Boeing 737, entre autres, de façon importante, et même si ça fâche certaines sociétés aériennes qui ne reçoivent pas leurs avions, on se demande si lentement le processus là, des erreurs qui ont été commises au cours des dernières années n'est pas dans une mouvance là, vers un retour à un équilibre important. Là.
Surtout, on l'a dit à quelques reprises, la demande est forte, le nombre de voyageurs va augmenter. Il y a une pression là, sur Boeing, sur Airbus pour livrer les appareils.
C'est un très bon point que vous apportez. Et malgré le fait que, comme vous dites, il y a au-dessus de 4800 commandes pour livrer des 737, bien Boeing a décidé de n'en livrer que 25 par mois pour les prochains mois, alors qu'il peut en fabriquer 38. Et ça fâche les sociétés aériennes comme Southwest Airlines, qui n'utilisent que des 737, American Airlines ou Ryanair en Europe. Alors, plusieurs sociétés aériennes sont obligées de reviser leurs horaires d'été et les diminuer. Et même certaines sociétés aériennes reculent des employés là, au moment où on se parle, justement parce que Boeing a décidé de ne pas produire plus d'avions qu'il ne pouvait.
Vous avez parlé tantôt des lanceurs d'alerte. Il y en a deux qui sont décédés quand même assez brutalement, là.
Oui. Sur le plan humain, j'espère qu'il n'y a pas eu d'interférence et que c'est la nature qui les a emportés. Mais quand même, je pense qu'ils ont fait leur travail. Il faut l'en féliciter, comme les quatre qui sont passés devant M. Blumenthal et M. Johnson, deux sénateurs démocrates et républicains en avril dernier. Les lanceurs d'alerte seront toujours importants. Et je pense que, justement, on a eu la tête du président précédent de chez Boeing, M. Muhlenberg, là, qui n'a pas résisté à son passage au Congrès en 2019. Et il est clair que le président actuel, j'ai oublié son nom, mais il devra partir lui aussi. Donc, l'annonce a été faite et le ménage, comme je vous disais lors d'entrevues précédentes, ne se fera pas en 90 jours. Mais si on voit des éléments qui nous laissent croire que finalement, on va revenir à une stratégie de construction d'avions de qualité avant une stratégie d'en faire des profits, bien, c'est bon pour la sécurité aérienne, les membres d'équipage et des passagers, non, et pour tout le monde en fait.
Merci, M. Lapointe. Bonne journée.
Bonne journée, M.
Au revoir. Jean Lapointe, expert en aviation civile et pilote retraité.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.